Bonjour à tous, bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 6 avril, c'est le lundi de Pâques. Et c'est une joie pour moi, par la grâce du Seigneur, de pouvoir partager avec vous encore la parole du Seigneur. Donc c'est vraiment un privilège et voilà, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une sœur, la sœur Mama Elena, moi je préfère l'appeler comme ça, c'est une maman. Donc nous sommes là, bonsoir, comment tu vas?
Bonsoir, je vais très bien, merci Évrard.
D'accord, ok. Donc nous sommes là pour. C'est une émission qu'on allait faire déjà en début de semaine, en fin de semaine, je crois, le jeudi. Jusque bon, les événements n'ont pas permis. On va du principe que c'est le Seigneur qui n'a pas permis. Donc comment tu vas?
Un peu stressée, mais ça va.
D'accord, ok. Ça va bien se passer. Désolé, oui, donc nous, on faisait un dernier réglage technique. Donc nous sommes là pour pouvoir parler, changer autour de la parole de Dieu sur un thème très intéressant qui est rencontrer Yeshua dans les évangiles, donc dans les quatre évangiles. Donc ce sera un échange autour de ce thème. Donc on va échanger, ce sera beaucoup plus Maman Elena qui va partager, moi je serai là, je vais l'accompagner, voilà. Donc, je te donne la parole.
Merci. Et avant de commencer, je viens de me souvenir, enfin, voilà, de me souvenir que la première fois de ma vie que j'ai mis dans une église, mes pieds dans une église évangélique, j'avais 14 ans et c'était un dimanche de Pâques.
Ah, d'accord.
Donc voilà, c'est aussi un anniversaire pour moi. Merci Seigneur.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Donc, on va parler de rencontrer Yeshua. C'est
Oui.
le thème que tu as eu à cœur de pouvoir partager.
Oui, alors avant de parler directement de ce qui me tenait à cœur, on va faire une petite présentation rapide de la Bible pour ceux qui ne la connaissent pas beaucoup. Donc la Bible est constituée de deux grosses parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a une partie qui est essentielle, qui est comme un socle. C'est ce qu'on appelle la Torah ou le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de Moïse. Ils sont fondamentaux. Dans le Nouveau Testament, nous avons quatre livres qui sont également fondamentaux. Ce sont les évangiles, les quatre évangiles de Jésus-Christ, qui racontent donc le ministère de Jésus-Christ. Donc les quatre évangiles ont été écrits par quatre personnes différentes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les trois premiers autour des années 60 après Jésus-Christ. Et de là, on peut remarquer que l'ère 2026 d'aujourd'hui, enfin l'année 2026, dépend de la naissance de Jésus-Christ dans le monde entier. En 3 ans de ministère, il a changé la face du monde. Il a changé, il y a l'ère d'avant et l'ère d'après.
Avant
Après lui,
Jésus-Christ et après Jésus-Christ.
voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment fondamentaux. Et pourquoi? Donc Matthieu, Marc et Luc ont écrit environ dans les 60 après Jésus-Christ et Jean en 86. Ce qui change, donc les trois, Matthieu, Marc et Jean étaient juifs, ont connu Jésus, ont vécu avec lui, mais Luc n'était pas juif. Je crois que c'était le seul auteur grec de la Bible et qui a écrit également les Actes des apôtres. Et donc chaque livre a un but particulier.
Et si tu me le permets, en même temps, tous n'ont pas marché avec, n'ont pas été apôtres directement parmi les quatre. Il y en a qui n'étaient pas apôtres parmi les 12, en fait.
C'est ça, voilà. Luc n'était pas un apôtre parmi les 12. Il était médecin, n'était pas juif, il était médecin, historien, et il a fait des recherches très sérieuses, très précises, auprès des véritables témoins pour écrire une lettre, cette longue lettre, donc l'évangile de Luc, pour faire part avec exactitude des événements qui se sont produits. Et le dernier évangile, c'est l'évangile de Jean. J'avoue que c'est mon chouchou parce que Jean avait environ 90 ans, je crois, quand il a écrit cet évangile. Et donc, il était jeune quand il était avec Jésus. C'était l'apôtre que Jésus aimait. C'était un jeune, il avait sûrement moins de 30 ans, et il a écrit cet évangile donc très tard dans sa vie. Et cet évangile est rempli de sagesse, il y a la maturité, il y a la sagesse, il y a la profondeur. Et il a apporté beaucoup d'éléments qui n'étaient pas dans les trois premiers. Donc il a enrichi de 92% environ, ouais. Je crois, en plus de connaissances par rapport aux trois premiers. Et il est très profond, il est magnifique. Ouais. L'évangile de Jean, il est très très beau. Donc le fait qu'il y ait parfois quelques incohérences apparentes entre les quatre évangiles prouve que ce sont vraiment des témoignages. Même aujourd'hui, lors d'un accident, si on interroge 10 personnes, l'un dira ceci, l'autre encore autre chose, il y aura toujours des différences. Voilà, il faut prendre. Donc ça, c'est vraiment une preuve de véracité de tout ce qui est écrit. Et les différences ne veulent pas dire des oppositions, ouais. Parce que parfois il y a des éléments que l'un donne et pas l'autre, et si on les emboîte les uns aux autres, on récupère une histoire plus complète.
La totalité de l'histoire, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Et moi, ce que je dis souvent quand je discute avec les jeunes dans la foi que j'ai l'occasion de rencontrer ou que j'encadre, que je baptise, je leur recommande souvent parfois de commencer par le livre de Jean dans les évangiles. Vraiment, je leur dis, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, mais maintenant, en tant qu'homme, si j'ai un conseil à vous donner, commencez par le livre de Jean, quoi. Parce que on a toute la richesse de la bonté du Seigneur, de l'amour du Seigneur, parce que quand on vient de se convertir, je pense que l'une des choses qu'on a besoin de comprendre et de découvrir, c'est davantage l'amour de Dieu. Et Jean développe beaucoup cette thématique-là.
Je voulais aussi parler de quelques petites méthodes. J'en profite, j'aime bien partager, j'en profite pour apporter des petits éléments comme ça. Donc, les trois outils d'apprentissage que nous avons tous. Nous avons les oreilles pour entendre la parole, les yeux pour lire la parole, mais également une méthode qui s'appelle kinesthésique, c'est-à-dire apprendre par les mains. Je pensais que les mains, c'était moins important, mais en fait, il y a à peu près un tiers de chaque méthode. Moi, je suis plus visuelle, par exemple. Évrard, je ne sais pas.
Moi, c'est visuel aussi.
Visuel aussi, voilà. Donc, on apprend plus en lisant. Donc, les personnes qui se sentent plus visuelles, lisez la Bible. Ceux qui sont plus auditifs, et je pense qu'au Gabon, il y en a beaucoup, parce que vous avez une capacité, une mémoire auditive... moi qui me sidère, enfin vraiment, vous vous souvenez de tellement de choses. Donc auditif, eh bien, écoutez la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi l'écouter mais sur le site de MCI, par exemple, elle est en audio, sur des CD, des cassettes, des clés USB. Il y a différentes méthodes maintenant pour écouter la Bible en audio. Et pour ceux qui sont plus manuels, plus dans les mains, eh bien, prenez le temps d'écrire ce qui est important pour vous, ainsi vous mémoriserez mieux les textes qui vous touchent, qui sont précieux pour vous.
Ouais. Et ça c'est vrai parce que moi je l'ai expérimenté, quand je lis des choses, je lis, j'ai compris, mais quand je prends le stylo pour écrire sur la feuille, j'ai l'impression que j'écris dans ma mémoire, c'est-à-dire des choses que j'ai compris et que j'ai vraiment envie de marquer, je prends une feuille et je commence à écrire. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme si ça avait été gravé dans du béton. Et ça reste. Et ça reste. Donc oui, effectivement, c'est important. Il y en a qui associent les deux, même les trois méthodes. Sinon, généralement, c'est une méthode. Mais il y en a qui associent les deux méthodes ou trois méthodes avec une qui va évidemment être prépondérante par rapport aux autres.
Voilà, c'est ça. Ensuite, encore un petit partage sur comment lire la parole de Dieu. J'ai recensé environ 9 méthodes. Par exemple, la lecture passive, on lit tous les jours, par exemple, 2 chapitres par jour, voilà. La lecture sélective, c'est-à-dire faire une recherche particulière sur un sujet pour comprendre quelque chose. Une lecture en diagonale, qui est une lecture rapide, pour retenir un plan général et une structure globale, pour avoir une synthèse, je comprends bien l'ensemble. La lecture active, c'est s'imprégner du texte, se poser des questions, s'arrêter sur les faits, les personnes, surligner, réfléchir, associer des idées, des pensées, des souvenirs, voilà. C'est une projection, en fait. On se projette à l'intérieur du texte et on en retire tout ce que l'on peut. La lecture exploratoire, lire et extraire des références sur un sujet précis. La lecture analytique, étudier quel est le contexte et quels sont les personnages. Par exemple, la lecture plaisir, lire ce qu'on a envie de lire par-ci, par-là. On peut aussi demander au Seigneur un texte particulier pour répondre à un besoin, un sujet, un problème ponctuel, une situation. Et on peut également, directement du Seigneur, recevoir une référence parce qu'il veut nous parler, lui, au travers de ce texte, sans qu'on le demande avant.
Alors, là, tu m'ouvres une brèche, parce que je vais profiter de ton expérience, parce que ça fait quand même une cinquantaine d'années que tu marches avec le Seigneur, avec les hauts et les bas de chacun d'entre nous, évidemment. Est-ce que ça voudrait dire, par rapport à ces méthodes, qu'on ne lit pas la Bible que lorsque c'est le Seigneur qui nous demande de la lire? Parce que c'est souvent des sujets comme ça que je rencontre avec des jeunes chrétiens. Ils veulent lire ce que le Seigneur leur demande de lire. Parce que quand on parle d'une méthode exploratoire ou de lire en croisée ou de lire ce qui nous fait plaisir, ça veut dire qu'on peut décider nous-mêmes volontairement de lire un texte.
Oui, on peut bien sûr décider soi-même de lire un texte, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand on lit un texte, il peut être hors de son contexte, hein, c'est la fameuse expression. Donc on peut comprendre un texte, mais sans connaître tout le reste, tout le contexte, l'histoire, les personnages. Et on ne peut ne pas le comprendre d'une part avec justesse, mais d'autre part manquer également de panorama général, de ne pas tout comprendre parce que justement on ne connaît pas le reste. Donc c'est important, c'est vraiment important de lire toute la Bible. Par exemple, si vous regardez un magnifique paysage, c'est bien, mais si vous vous contentez de regarder une feuille, un pétale de fleur, la feuille qui est là-bas, regardez un petit bout de nuage dans le ciel. Vous ne regardez que ça. Est-ce que vous voyez l'ensemble? Non. Si vous voyez un petit bout de nuage dans le ciel, mais bon, c'est blanc, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Si vous regardez une feuille, vous dites, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est une feuille, mais je ne réalise pas. C'est quelle variété? C'est quelle plante? Est-ce qu'elle est mangeable? Est-ce qu'elle est toxique? Je ne sais pas, je ne sais rien. En fait, donc, c'est important de connaître le panorama tout entier pour comprendre les détails sur lesquels on s'arrête.
Ouais, c'est vraiment important. Moi, j'estime qu'un chrétien, au bout de 3 ans, c'est pas écrit quelque part dans la Bible, mais moi j'estime, c'est un avis personnel qui n'engage que moi, qu'un chrétien quand même au bout de 3 ans devrait avoir lu toute la Bible au moins une fois.
Oui. Ouais.
Même s'il ne l'a pas lu de façon continue, même s'il a lu Genèse, il est allé à Apocalypse, ensuite il est revenu sur Matthieu, après Habacuc, après Exode, l'essentiel c'est d'avoir lu un peu tout pour effectivement avoir ce panorama global qui lui permet de situer à la fois les histoires dans l'espace et dans le temps pour mieux comprendre la chronologie de la Bible et le plan de Dieu.
Exact. Je me souviens d'un pasteur il a raconté que quand il s'est converti, il a lu la Bible, il a dévoré en 10 mois, il a lu tout le temps, beaucoup, parce qu'il voulait tout voir, tout connaître, tout vite. Et la deuxième fois, il a lu en 2 ans. Et ça, je le comprends complètement. On peut avoir soif et tout lire, mais quand on lit vite, c'est comme si on regarde un paysage complexe, on le voit vite. Bon oui, on le voit globalement vite, mais beaucoup de choses nous échappent. Donc quand il a lu la Bible pour la deuxième fois en 2 ans, je le comprends parfaitement parce que la Bible est un livre unique au monde. Je crois que c'est le livre le plus lu dans le monde entier. Et c'est le premier livre qui a été imprimé par une imprimerie dans le monde. C'est un livre, au-delà de ça, c'est un livre qui est extraordinaire. Moi, quand je pense à la Bible, je suis baba. Parce qu'elle est à la fois abordable par tout le monde, même mon petit-fils de 7 ans a déjà commencé à lire les évangiles. Il a lu déjà plusieurs chapitres. Bon, voilà, c'est vrai que c'est pas... Mais il a... Voilà, il peut déjà lire. Donc, tout le monde peut lire la Bible. Il est vrai qu'il y a des textes un peu compliqués, qui sont difficiles à appréhender, pas au niveau du vocabulaire ou des tournures de phrases, bon, sauf si les versions sont très anciennes, mais peut-être au niveau des prophéties, elles peuvent rester encore mystérieuses, complexes, parce que comme tout bon général, Dieu ne va pas révéler ses plans à l'ennemi. Il donne des pistes pour que ses enfants reconnaissent les temps, mais il ne va pas donner, il ne va pas livrer ses plans pour que l'ennemi vienne les déjouer. Donc il y a certaines prophéties qui restent encore difficiles à comprendre. Et puis, le Seigneur a dit que le salut vient des Juifs. Et c'est vrai que ça me tient à cœur de rapporter la Bible aux Juifs. Luc n'était pas juif, mais tous les autres étaient juifs, même dans le Nouveau Testament. Donc nous devons remercier ce peuple qui a souffert, qui a eu des hauts, des bas, des difficultés, des réussites, des épreuves, voilà, qui a traversé toutes sortes de choses. Voilà, on leur doit beaucoup.
Ouais.
Alors maintenant, on pourrait donc rencontrer un de ces juifs qui est fondamental, celui qui, pour qui nous faisons cette émission, c'est Jésus-Christ. En juif, enfin en hébreu à l'époque, c'était Yeshua, et j'ai un faible pour Yeshua. Mmh. J'aime beaucoup ce nom. À l'oreille, dans mon cœur, ça, voilà, Yeshua, c'est beau. Ouais. Yeshua, c'est très beau, donc permettez-moi de l'appeler ainsi. Alors, je voudrais vous raconter rapidement mon expérience de lecture. J'ai lu la Bible comme beaucoup, c'est-à-dire en entier, par lettres, par les livres entiers, parce que quand on reçoit un courrier d'un ami, on ne lit pas le milieu, la fin, le début, une phrase par-ci et trois par-là-bas. Non, on lit le début, bonjour, blabla, etc. Et on lit jusqu'à la fin, on voit et signature. Donc une Bible, ça se lit également comme ça. Mais chaque livre se lit comme ça, du début à la fin, de manière à le percevoir dans son ensemble et à ne pas faire sortir des textes de leur contexte. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ?
Tu donnais ton expérience sur le contexte de la lecture de la Bible. En fait.
Voilà. Alors donc j'ai lu comme beaucoup de personnes la Bible en entier, et je l'ai lu par morceaux, par texte. J'ai écouté des enseignements, donc j'ai lu, relu certains textes, etc. Voilà, comme beaucoup de chrétiens normalement, puisque comme le frère disait, c'est très important pour un chrétien de lire la parole, la Bible tout entière. Mais il y a quelques années, 5, 6 ans, 7 ans, je ne me souviens plus trop, quelque chose, un déclic m'a conduite à lire les évangiles tous les matins. Donc j'ai lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, et aujourd'hui encore, ce matin encore, j'ai lu, je recommence Matthieu, j'ai fini Jean hier soir, donc tous les jours, sauf exception, bien sûr ça arrive, hein, je lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous les matins. Et ça m'a enrichi d'une manière qu'au départ je n'imaginais pas. C'est pour ça que je souhaite en parler aujourd'hui et vous encourager vivement à lire les quatre évangiles. On ne va pas parler des miracles, des guérisons, des délivrances, des enseignements, des choses qui ressortent comme des sommets de montagne, des choses que l'on voit, qui sautent aux yeux, qui font plaisir, qui donnent envie de prier pour telle guérison, etc. Non, on ne va pas parler de ça. C'est pas le but. Ce que j'aimerais vous partager, c'est la découverte de la personne de Yeshua au travers des évangiles. Quand on lit une lettre, on lit la lettre de son ami. Dans chaque phrase, même si la phrase dit quelque chose de simple, de courant, on lit son cœur, on le connaît, on sait ce qu'il veut dire, on sait ce qu'il a vécu, on sait ce qu'il partage, pourquoi il écrit cette phrase-là. Alors de lire tous les jours les évangiles, c'est comme fréquenter Jésus tous les jours. On le voit, on le découvre partout, au travers à travers les lignes, mais à travers des petites expressions, des petits mots, à travers tout. Même il a marché, il a eu faim, il a eu soif, il a fait ceci, il était doux et humble de cœur, il a eu de la compassion, il a eu de la patience, il a eu de l'amour, il a pleuré. Voilà, à travers une multitude de détails. Et c'est difficile de trouver des références précises parce que on le trouve pas dans les grandes références, on les trouve dans les détails. C'est lire chaque jour les évangiles, c'est fréquenter chaque jour Jésus-Christ et c'est apprendre à le connaître lui. Pas ce qu'il a fait, pas ce qu'il a dit, mais à découvrir sa personne, son cœur, sa beauté. Quand je pense à lui, je me dis mais il est parfait, quoi. Il est parfait, mais franchement, je suis amoureuse de lui. Mais qui est semblable à lui? Mais qui lui ressemble? Mais personne. Personne. Je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un d'aussi parfait que lui. Et cette perfection, cette douceur, cette intelligence, cette force, cette autorité naturelle qu'il a. Mais je ne sais pas. Ouais. C'est inexprimable. En fait, Jonathan a été l'ami de David, le grand roi David. Mais d'autres hommes ont aimé David, comme trois de ses soldats qui ont risqué leur vie, qui sont allés dans le camp de l'ennemi uniquement pour rapporter de l'eau de la source de Bethléem à David, parce que David avait envie de boire cette eau. Ces trois hommes aussi aimaient David jusqu'à perdre la vie. Mais tous les soldats fidèles, les 40 soldats, les 40 héros, ouais. tous les héros, tous les grands soldats, tous ceux qui étaient autour de David étaient foncièrement attachés à David. Mais chacun aimait David selon son propre cœur, ses racines, sa connaissance et son propre caractère, son tempérament. Eh bien, chacun de nous, en lisant les évangiles, peut apprendre à reconnaître Jésus avec le langage de son propre cœur. Chacun selon ce qu'il est, selon son cœur, selon ses besoins, ses émotions, ses racines, ses connaissances, selon ce qu'il est, lira et aura une approche différente des évangiles de la mienne, différente de la mienne, forcément, on est tous différents, mais chacun apprendra à développer cette relation, cette connaissance du Seigneur, qui le rapprochera du Seigneur. Voilà, ça c'est vraiment le but ultime de cette émission, c'est de vous encourager à lire les quatre évangiles. Je vais oser, lisez-les tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les midis, quand vous voulez, quand vous pouvez. Quand je lis les évangiles, je ne lis pas deux chapitres, non. Un chapitre, parfois. Deux paragraphes, oui. Et parfois une ligne, parfois un verset. Parfois un verset pendant trois jours, peu importe. Je le lis selon ce qui touche mon cœur. Parfois je peux lire un peu plus parce que voilà, bon, j'avance. Et il m'est arrivé, comme j'ai raconté, je crois, samedi au frère, j'ai lu un texte un jour et j'ai pleuré pendant deux heures. Parce que ce texte, je le connaissais depuis longtemps, mais ce jour-là, Il est rentré comme une... c'est énorme, comme à quel point il m'a pénétrée. Et je suis restée dessus, j'ai pleuré pendant deux heures. C'est un texte qui m'a été très fort et que je ne peux pas oublier ce moment aujourd'hui. Donc, c'est vrai que maintenant, j'en conviens, je suis à la retraite. J'ai peut-être un peu plus de temps que d'autres personnes. Mais donnez-vous le temps de lire, mais selon la lecture active. Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire imprégnez-vous du texte, posez-vous des questions sur les personnes, le contexte, imaginez-vous, c'était l'hiver, l'été, imaginez-vous comme si vous étiez toujours à côté du Seigneur et là vous l'observez, vous l'écoutez, vous voyez ses mains, vous voyez ses yeux, sa bouche, vous le regardez marcher d'un village à un autre, rentrer dans la synagogue, être rejeté par les uns, moqué par les autres. Mais quelle force et quelle autorité naturelle. J'aime bien le texte où les pharisiens ont demandé à Jésus, « Bon, dis-nous, par quelle autorité tu fais ça ?» Et le Seigneur, alors eux qui étaient les responsables religieux, craints de tout le peuple, attention, hein, c'était vraiment les grands responsables. Et Jésus leur a dit, je vais vous poser une autre question. Si vous me répondez, je répondrai à votre question. D'après vous, d'où vient le baptême de Jean? Est-ce que le baptême de Jean vient
de Dieu ou des
Dieu ou des hommes? Et là, les religieux se sont dit, si on dit des hommes, le peuple va nous lyncher parce que le peuple croit que c'est un prophète de Dieu. Si on dit de Dieu, Yeshua va nous dire, mais pourquoi n'y avez-vous pas cru? Bon, donc on va répondre, on ne sait pas. Et Jésus a dit, bon, puisque vous ne répondez pas, moi aussi je ne vous répondrai pas. Sur ce, les grands chefs religieux montés sur leur piédestal de grands chefs, ben ils se sont pliés, ils se disent on s'en va quoi.
Ils ont surtout rencontré la sagesse infiniment variée. Et on apprend vraiment avec ce texte qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles et Dieu nous donne, en voyant Yeshua faire, la sagesse de répondre à des situations, à des questions qui peuvent être très difficiles, quoi. Explorer vraiment la vie du Seigneur, c'est très riche pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On y apprend énormément de choses.
C'est ça. Donc, c'est un trait de caractère que j'aime beaucoup, parce que Yeshua manifeste notamment dans ce texte une autorité naturelle. C'est-à-dire que quand il parle, même les responsables religieux ne peuvent rien contre lui. Ils auraient aimé l'arrêter bien plus tôt, mais ils n'ont pas pu, parce que c'est pas le moment. C'était pas le moment du Seigneur, donc ils n'avaient absolument aucun pouvoir. Et dans de multitudes de détails comme ça, on apprend à reconnaître la grandeur du Seigneur, sa dignité. Et là, je repense à deux textes, un que j'aime énormément et l'autre que je pense être très important. Le premier, c'est dans Hébreux chapitre 1. Si vous voulez le verset, je vous encourage à lire Hébreux chapitre 1, ainsi vous verrez tout. Donc il est écrit, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, à qui il a donné toutes choses en propriété et par qui il a créé l'univers. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression maître de la substance de Dieu. Ce Fils qui soutient tout ce qui existe par sa parole puissante, il a accompli par lui-même la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté élevée, le Tout-Puissant. Yeshua est le rayonnement de la gloire de Dieu. Et cette expression que je trouve extraordinaire, qui pour moi résume tout, il est l'expression de la substance de Dieu. Il est l'expression de Dieu. Qui est Yeshua? Il est l'expression de Dieu qui est venu sur terre. Parce qu'on ne peut pas avoir Dieu. Dieu est trop grand, il est trop élevé, il est trop puissant, il est trop tout. Quand on dit tout puissant, c'est même trop petit. Aucun mot français, ni miéné, ni fan, ni n'importe quoi, n'importe quelle langue, aucun mot peut décrire proprement qui est Dieu. Peut le décrire avec exactitude, on ne peut pas. Tous nos mots sont trop faibles pour exprimer qui est Dieu. Mais Yeshua, qui est l'expression même de la substance de Dieu, est venu sur terre pour se révéler et révéler le Père. Et notamment dans Jean 14, Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffit. » Et Jésus lui a dit, mais Philippe, tu m'as vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, quand on apprend en lisant les évangiles, quand on apprend à fréquenter le Seigneur, à le voir, à reconnaître son caractère, à reconnaître sa personne, son caractère, son tempérament, sa manière de faire. Quand on voit sa beauté, on voit la beauté de son cœur, mais on voit aussi la beauté du cœur de Dieu. Quand on voit la personne de Jésus, on voit la personne du Père. Donc, c'est pour ça que c'est tellement fondamental de lire les évangiles tous les jours pour rencontrer le Messie, pour rencontrer Yeshua qui est notre Sauveur, celui qui a tout accompli, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul, personne ne peut aller au Père sinon par moi. Donc, cherchons Yeshua, marchons avec Yeshua, apprenons à le connaître et à le fréquenter chaque jour afin de trouver le chemin, la vérité et la vie en lui.
Amen. C'est capital. Et c'est pourquoi les Juifs ont voulu le lapider quand il a dit il est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il symbolisait les trois portes, en fait, la porte du chemin, la porte de la vérité et de la vie. Et les trois portes, en fait, les Juifs appelaient les portes du temple, il y avait la porte du chemin, il y avait la porte de la vérité et il y avait la porte de la vie. C'était les trois portes. Donc quand il avait dit ça, ils se sont dit, mais ce monsieur, bref, Jésus.
Voilà, Yeshua. Et n'oublions pas que dans Jean 3,16, c'est le verset peut-être le plus connu dans la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout passe par Yeshua. Il est patient, il est doux et humble de cœur. Il donne la paix, il nous laisse la paix. Il est parfait. Et même, il y en a un jour, les pharisiens ont voulu envoyer des huissiers ou des soldats, ça dépend des versions. Allez arrêter ce Yeshua. Ils sont partis. Mais Yeshua était en train d'enseigner le peuple, enseigner des gens dans la cour du temple, je crois. Et les soldats ou les huissiers, je ne sais pas, ont écouté. Ils ont été tellement émerveillés par ce qu'ils ont entendu, tellement touchés dans leur cœur. Ils sont revenus sans Jésus. Et les responsables religieux ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Et ces hommes ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Alléluia. Avez-vous donc été aussi séduit?
Allez-vous commencer à lire les évangiles tous les jours?
Oh, c'est magnifique.
Voilà, c'était vraiment le cœur de ce que j'espérais vous partager aujourd'hui.
Donc, alors de mémoire, quand on regardait un peu, il y avait un petit tableau synthétique qui parlait des différentes vues de Jésus dans les quatre évangiles. Ce serait peut-être bien d'aborder cet aspect-là également.
D'accord. Donc, nous avons quatre évangiles. Le premier, c'est l'évangile de Matthieu. Ne vous découragez pas, parce que le premier chapitre, c'est une généalogie. Elle paraît rébarbative, mais en fait, j'ai déjà entendu une prédication entière sur le sujet, parce qu'elle est très riche d'enseignements. Et Matthieu, ce premier évangile, a été écrit en premier pour les Juifs, pour convaincre les Juifs que Yeshua est véritablement le Messie qu'ils attendaient. Par exemple, dans ce livre de Matthieu, il y a, je crois, plus de 40 références à l'Ancien Testament pour prouver que Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, par sa naissance, différentes choses qui se sont passées dans sa vie. Il a accompli des prophéties de l'Ancien Testament, en commençant par le Pentateuque, les livres, les écrits, les prophètes, dans un petit peu partout, il y a des textes. Même le texte, quand il est mort à la croix, les soldats ont partagé ses vêtements et ont tiré au sort sa tunique. Jésus était mort, venait de mourir, mais qui a dit à ses soldats d'accomplir exactement ce qui était écrit ? Ils se partageront mes vêtements et tireront au sort ma tunique. C'est écrit en toutes lettres dans l'Ancien Testament. Ces soldats l'ont accompli. Qui peut dire que Jésus n'a pas accompli? Jésus a tout accompli. Il est né à Bethléem, de la famille de Judas. Il y a toute sa généalogie en remontant jusqu'à Abraham. Il y a une autre généalogie dans le livre de Luc. Mais ce livre de Matthieu a donc pour but de... l'Ancien Testament est appelé l'Ancienne Alliance. Et à partir de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Or, ce livre-là, c'est un peu une charnière entre les deux, c'est-à-dire il va convaincre les Juifs de l'Ancienne Alliance que Jésus est vraiment le Messie attendu et qu'à partir du Messie, de Yeshua, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc il y a effectivement un aspect qu'il est le fils de David, que Jésus est roi. Ça, ce sont des caractéristiques qui ressortent dans Matthieu. Il est dit sur David, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il est venu pour accomplir. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir l'Ancienne Alliance, mais je suis venu pour accomplir. Et ça, c'est important. Il est venu pour accomplir tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Donc, Yeshua a été oint en tant que roi, puisqu'il est rentré dans Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, et que le peuple, parce qu'il a fait des dizaines, des centaines, des milliers de guérisons. Donc ce peuple qui a été guéri, qui a été soulagé, qui a été touché, qui a été délivré, enseigné, qui ont vu des miracles, la multiplication du pain, Jésus qui marche sur l'eau, qui calme la tempête, ils ont vu tellement de choses, ils ont adoré le Seigneur, ils ont jeté leur manteau sur le chemin, ils ont mis des feuilles de palmier, ils ont crié Hosanna, gloire à l'agneau, ils ont crié et Jésus est rentré par la porte dorée, donc qui donne du côté du temple, il est rentré par là comme un roi, mais un roi assis sur un ânon, sur le petit d'une ânesse, un roi qui est doux et humble de cœur. Le Seigneur est venu pour servir, il n'est pas venu pour être mis sur un piédestal, être servi, avoir des grandes couronnes, avoir des manteaux de pourpre et de dorure et d'argenterie, et des gros bijoux. Non, le Seigneur, il est doux et humble de cœur. De toute façon, il est maître de tout. Quand on a tout, on n'a pas envie de se charger de quelques bijoux, parce que tout est entre ses mains. Il contrôle tout. Le Dieu contrôle tout. Les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament s'accompliront toutes à la lettre. Amen. Il y en a qui se sont déjà accomplies à la lettre. Et celles qui restent s'accompliront aussi à la lettre. Que l'ennemi le veuille ou ne le veuille pas, que les hommes le veuillent ou ne le veuillent pas, Dieu tient tout entre ses mains et ce qu'il veut, il le fera. L'évangile de Marc présente davantage le Seigneur comme un prophète. C'est le fils d'Abraham. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup quelque chose que Dieu a dit à Abraham. Rappelons qu'Abraham, c'est le père de la foi. Dieu a dit à Abraham quelque chose que je trouve très... Voilà. Je ne sais pas comment exprimer ce que cette phrase me fait, mais Dieu a dit à Abraham, le père de la foi, « Marche devant ma face et sois intègre. » Il n'a pas demandé à Abraham de faire et ceci et des cela et des temples et des trucs et des choses extraordinaires. Non, il lui a dit, « Marche devant ma face et sois intègre. Ne vole pas, ne mange pas, ne mens pas, ne triche pas, ne détourne pas. Ne commets pas de mal, ne fais pas de croche-pattes à ton voisin, ne te moque pas de l'autre. Sois intègre, sois un homme droit, sois un homme juste, sois un homme, marche dans la sanctification. Marche devant ma face, sois avec moi, sois mon fils, mon enfant qui marche devant moi et sois intègre. Quand on lit des livres, par exemple le livre de Ruth, Ruth est une femme simple qui a fait peu de choses. Mais elle a un livre qui porte son nom parce qu'elle a eu un cœur qui a marché devant la face de Dieu et qui a été intègre.
Amen.
Et elle a eu une grande bénédiction. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David. C'est une femme étrangère au peuple d'Israël. Marche devant ma face et sois intègre. C'est le béaba de ce que tout chrétien devrait faire. Avant de faire des exploits et des grandes choses, marche devant ma face et sois intègre. Ça sert à quoi de faire de grandes choses si on marche dans le mensonge ou dans le vol? Les bases sont pas bonnes. Un jour, tout s'écroulera. Tout s'écroulera. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, Yeshua, fils d'Abraham, est un prophète. Il est venu comme un serviteur. Il est venu pour servir et non pas pour être servi par des foules. Il est venu pour servir. Il a servi par sa bonté, par ses enseignements, par les guérisons, les délivrances, par sa compassion, par les résurrections, par tout ce qu'il a fait, il a servi avec le cœur du Père. Il est venu en tant que prophète, comme la voix de celui qui crie. Il a fait beaucoup de miracles. Voilà, donc c'est quelques éléments que je pourrais dire sur Marc. Alors l'évangile de Luc, comme on a dit tout à l'heure, est un historien qui a rassemblé avec précision des informations, des données, en allant voir tous les témoins directs, notamment la mère de Yeshua, qui a pu lui raconter tout ce qui s'était passé à la naissance de Jésus. Donc il va donner beaucoup de détails à partir de la naissance de Jésus jusqu'à la fin. C'est un des, je crois que c'est le plus long livre, un des quatre. Donc lui, il présente Yeshua comme le Fils de l'homme, comme celui qui est venu en tant qu'homme, avec un corps d'homme, mais qui est venu pour chercher et sauver. Ça me rappelle une histoire que j'avais racontée aux enfants, à Port-Gentil d'ailleurs. Peut-être que si quelques-uns d'entre vous étaient là, ils reconnaîtront peut-être cette histoire, parce que je leur avais fait apprendre par cœur. C'est l'histoire d'une grande volière. Dans cette grande volière, il y a plein d'oiseaux. Et dehors, dans le ciel, dans la liberté, dans l'espace, dans la beauté de la nature, du ciel, etc., il y a bel oiseau. C'est un oiseau qui est magnifique, qui a des couleurs, qui est beau, qui est majestueux. Voilà, et il est heureux parce qu'il est vraiment dans une parfaite liberté. Mais bel oiseau voit tous ces oiseaux qui sont là dans la volière. C'est une grande volière, hein, c'est pas une petite cage, c'est une très grande volière. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des coins, voilà, il y a des différentes variétés d'oiseaux. Il y a des bleus, des rouges, des jaunes, des petits, des grands, des gros, de tout. Mais bel oiseau a vu tous ces oiseaux enfermés dans une cage et il a décidé de venir leur montrer le chemin. Donc, avec son bec et sa tête et ses ailes, il a commencé à gratter avec son bec. C'est une histoire, hein. Il a commencé à gratter la terre sous le bord inférieur de la grille qui fermait la serre. Évrard me voit parler avec les mains, je suis en train de vous décrire un peu les choses, mais vous ne voyez pas, c'est dommage, ça m'aiderait un peu. Donc bel oiseau commence à gratter dessous, il gratte, il commence à faire un passage et il s'abîme le bec, il s'abîme la tête, il s'abîme les plumes et il arrive à passer sous le grillage, il arrive à passer sous le grillage et il rentre dans la volière. Et à l'intérieur de la volière, il parle à tel oiseau, à tel autre oiseau, etc. Mais vous savez, ne restez pas ici. Dehors, il y a la liberté. Dehors, il y a l'espace. Dehors, il y a la beauté. Venez, suivez-moi. Venez, j'ai ouvert un passage. C'est le chemin. Je dis la vérité. De l'autre côté, vous trouverez la vraie vie. Suivez-moi. Donc, il a parlé à des oiseaux. Et il est reparti par le trou, et certains oiseaux ont décidé de le suivre et de passer aussi dans le trou et pour trouver le chemin de la vraie liberté. Certains l'ont entendu, oui, non, moi je suis très bien ici, Non, moi, j'ai besoin de rien. J'ai pas envie, non. Moi, je me sens libre dans ma cage. Il n'y a pas de problème. La connaissance que j'ai me suffit. Je n'ai pas envie de plus. D'autres n'ont malheureusement pas entendu. Mais il y en a qui ont entendu et qui l'ont transmis à d'autres. Et tu sais pas, si tu passes par le trou là-bas, tu vas trouver la liberté. Donc, certains ont pu passer par le trou et trouver la liberté. J'aime cette histoire parce que c'est une parabole.
Oui, c'est une parabole.
Une parabole moderne de ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà. Et puis, ah oui, on en était à Marc, donc, qui est venu en tant qu'homme sur la terre et qui, pour nous montrer le chemin pour aller vers le ciel. En dernier, Jean, donc c'est un peu mon chouchou, comme je disais.
On était sur Luc, tu avais fait Marc.
Oui, Luc.
Luc, donc maintenant Jean.
Voilà, Jean. Donc le fils, alors Jean présente Dieu, Jésus, comme le fils de Dieu. Et on tombe dans le bain immédiatement, dès le premier chapitre de Jean. Je n'ai pas pris d'extrait là avec moi, mais lisez-le, parce que si je lis, ça va être un petit peu long. Sinon, je risque de nous lire tout Jean, et puis ça risque d'être un petit peu long. Mais même les premières paroles, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était avec Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Voilà, ça c'est le tout début de Jean. Et Jean est donc empreint de sagesse, de maturité, d'amour. Et Jean présente Yeshua comme le Fils de Dieu. Le Fils unique et véritable de Dieu, celui qui est venu sur terre pour révéler le Père et qui est parti, qui a été offert en sacrifice. Il a été cloué sur la croix le jour de la préparation de la Pâque. Et ce jour de la préparation, il tuait les agneaux. Ils n'étaient pas tués le jour de Pâque, ils étaient tués le jour de la préparation. Yeshua a été cloué sur le bois le jour de la préparation. Et ça, les sacrificateurs, les pharisiens, les chefs religieux, ils n'ont pas du tout calculé. Ils n'ont pas du tout, ils ont voulu se frotter les mains en se débarrassant de Jésus, mais ils ont purement et simplement accompli la volonté du Père. Parce que toute personne qui se tourne vers Yeshua en disant « Pardon, j'ai commis des péchés », Pardon, j'ai fait telle chose. Ma conscience est lourde, mon cœur est chargé. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que tu es déjà mort. En portant mes péchés, en portant ma douleur, en portant mes fautes, en portant tout le mal qui est en moi, pardonne-moi. Et Yeshua est fidèle et bon pour pardonner les péchés. Ça me rappelle une petite histoire que j'ai lue à mes petits-fils il n'y a pas longtemps. C'est quand Yeshua enseignait, parlait dans une maison qui était remplie de monde. Il y avait aussi des pharisiens qui venaient là pour scruter ce qu'il disait, pour l'accuser. Mais il y avait aussi tous les villageois, beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde que 4 amis qui avaient un 5e ami paralysé, couché sur un brancard, se sont dit « on va monter notre ami sur le toit, ouvrir le toit et faire descendre notre ami paralysé devant Jésus. Comme ça, Jésus, il le verra, et s'il le veut, il le guérira. » Et ainsi, ils ont fait. Quand le paralysé s'est retrouvé devant Jésus, Jésus lui a dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors, les gens ont dit, « Comment ? Mais qui est-il ? Mais pour qui il se prend ? Pour oser dire, mais tes péchés sont pardonnés, mais Dieu seul pardonne. Mais qui est-il cet homme-là pour pardonner les péchés ? » Jésus a répondu, « Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou bien est-ce qu'il est plus facile de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous croyiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, homme, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et l'homme s'est levé, il a pris son lit Et il a marché. Et il a dû sortir en courant, en criant. Et tout le monde, des dizaines, peut-être des centaines de personnes l'ont vu, ils l'ont su. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, avant même sa mort et encore plus maintenant. Même aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc allons à lui avec confiance et espérance. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Oui, c'est vraiment enrichissant. C'est enrichissant de lire les évangiles. Là, je faisais une vérification parce que pendant que tu parlais, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, mais il y a que parmi dans les quatre évangiles, il y a que Jean qui fait ressortir l'épisode du serpent ardent, l'épisode des serpents ardents dans le désert, en fait, où la Bible dit
c'est vrai.
Que quiconque, en fait, de même que le serpent a été élevé dans le désert. Quiconque regardera le Fils de Dieu sera sauvé, en fait, quelque chose comme ça, je paraphrase. En fait, il n'y a que l'évangile de Jean qui reprend ça, en fait. Donc il présente vraiment Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie qui vient pour sauver, qui est mort à la croix. Et je crois qu'il est même l'un des rares qui précise dans les paraboles, les paroles de Jésus, que Jésus dit je donne ma vie, personne ne me la prend. Vraiment, Jésus apporte cette précision, Jean apporte cette précision dans son livre pour dire que Jésus, il a donné sa vie. Personne ne lui a pris la vie. Lui, il a décidé de la donner par amour pour nous. Et c'est vraiment dans les évangiles qu'on rencontre, le Seigneur, parce que c'est, comme l'a dit notre sœur, c'est la croisée entre l'Ancienne Alliance, les prophéties des prophètes, des Jérémie, Esaïe, des psaumes et tout le reste. C'est là qu'on voit vraiment s'accomplir, quoi. Et comme elle l'a dit dans le livre de Matthieu, on a plein de références au livre ancien, au livre prophétique, au livre des psaumes, tout ça, au livre d'Exode aussi, par exemple. Il y a par exemple cette référence à « Es-tu le prophète de Deutéronome 18-15, que les Juifs continuent d'ailleurs à malheureusement attendre, qu'ils attendent le retour du Seigneur. Mais voilà, quoi. Donc, des évangiles nous permettent de rencontrer ce Yeshua-là qui était promis pour le salut du monde et qui est venu sur la terre et qui est venu mourir pour tous les hommes. Donc c'est vraiment capital parce que tout ce qui est dit, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Comme dit la Bible dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Donc, ce succès-là, ça passe par la connaissance du Seigneur. Hein, parce que plus on connaît le Seigneur, plus on fait des bons choix, plus on évite de faire des mauvais choix, plus on évite de faire des mauvaises choses, plus on évite de faire des choses qui peuvent blesser le Seigneur. En fait, quand on découvre l'amour du Seigneur, le sacrifice du Seigneur, par exemple, quand on en discutait, je me souviens, on se disait, mais rien qu'en lisant les Écritures, on voit rien que le sacrifice que le Seigneur faisait d'aller de ville en ville. Il n'y avait pas les taxis, hein, y avait pas d'avion. Et il marchait de ville en ville. Et Dieu seul sait que c'était des distances longues. Ils allaient dans les déserts. Et lui-même, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer la tête. Donc ça veut dire que parfois, après avoir travaillé quelque part, il y avait des fois où c'était compliqué pour trouver un endroit où dormir parce que parfois même les villes étaient hostiles à sa personne. Et ça, il l'a fait par amour pour nous. Il l'a vraiment fait par amour pour nous. Et moi, j'aime bien, il y a un épisode que j'aime bien dans les évangiles, c'est qu'on on découvre aussi Jésus comme un humain qui est très proche des gens. On le voit repartir beaucoup à Capernaum, la ville de Pierre, dans la maison de Pierre. On voit Jésus qui est un Dieu responsable, en fait, qui tient compte des familles, qui tient compte du fait que Pierre avait une femme, il avait des enfants, il avait une belle-mère. Et je comprends mieux, en fait, ce passage de la Bible qui dit, par exemple, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle, il a régné la foi. Et en lisant les évangiles, comme on en discutait déjà la dernière fois, on voit le Seigneur qui a éduquer les apôtres, qui a éduqué les disciples. Et tout ça, on rencontre ça dans le Seigneur, quoi. Dans les évangiles, on voit toutes ces choses. le Seigneur, dans sa bonté, cette autorité naturelle dont tu parlais, l'autorité sur les éléments de la nature, avec des enseignements derrière, quand Jésus dort alors que la mer est en train de menacer et que les apôtres sont complètement effrayés, qui lui disent « Mais maître, on va périr » et qui se réveille et qu'il menace les eaux et que les eaux et les vents se calment. Toutes ces choses, en fait, on découvre vraiment le Seigneur. Et quand on lit ça, par exemple, cet épisode, et qu'on est dans le trouble, on se dit « Mais j'ai tout intérêt à être dans le calme parce que ce qui s'est passé avec Pierre, en fait, Jésus, il est là. Donc, peu importe, même si la barque, elle est en train de s'écouer en ce moment dans ma vie, mais il est là, quoi. Il se lèvera tôt ou tard, et il menacera les vents qui s'écoutent dans ma vie. » Et ça, c'est en lisant les Écritures qu'on découvre ça. C'est en lisant les Écritures qu'on découvre. C'est pourquoi, moi, je suis enseignant de la parole, on a la radio, mais je dis aux gens, écoutez la radio, mais lisez la Bible, parce que
c'est fondamental.
C'est fondamental, il faut lire la Bible. Et comme on l'a vu, l'importance de lire les évangiles, c'est capital parce qu'on découvre la personne du Seigneur. Là, on le découvre vraiment en direct. Dans les épîtres, on est plus dans l'enseignement, on est plus dans la doctrine, en fait. C'est plus doctrinal, c'est plus fonctionnement de l'Église, c'est plus corriger les mauvais comportements dans les Églises, parler aux gens du retour du Seigneur. Mais là, vraiment, dans les évangiles, on le voit, il est vraiment face à nous. Il nous parle, il nous interpelle. C'est beau.
C'est ça, c'est beau. Des fois, je m'endors en m'imaginant sous les colonnes de Salomon autour du temple. Là, Jésus est là, il est assis et plein de gens sont autour. Et moi, je suis là au milieu et j'écoute Jésus parler. Waouh. Je m'endors avec cette pensée, Voilà, c'est faut vraiment. Donc, je vous encourage vraiment à lire toute la Bible. Mais si vous pouvez en plus lire tous les évangiles tous les matins pour rencontrer le Seigneur, le fréquenter, apprendre à le connaître, et lui, et à connaître le Père au travers de lui, c'est vraiment important. Et ça donne. Ça me fait penser aussi que quand on connaît Jésus et qu'on entend parler des personnes, on se dit, mais c'est bizarre ce qu'il dit là. Ça donne, ça, de connaître la Bible et le Seigneur, la personne du Seigneur, ça donne un discernement simple et naturel sur ce qui vient de lui, de ce qui ne vient pas de lui. Il y a des choses qui nous étonnent, parce, mais le Seigneur, il n'est pas comme ça. Le Seigneur, il n'agit pas comme ça. Donc, Cette simple connaissance qui est douce, qui est vraiment douce. Comme disait le frère, m'a dit il y a quelques instants, enfin il n'y a pas longtemps, il parlait de la grotte d'Élie et qu'Élie entendait le grand vent, le vent puissant. Non, Dieu n'est pas dans le vent, il n'est pas dans la tempête. Ouais. Et quand le doux murmure est arrivé, alors Élie est sorti. Dieu était là dans le doux murmure. Voilà, et c'est la lecture des évangiles, c'est ce que j'ai découvert sur ces dernières années, nous apprend à reconnaître le doux murmure de Dieu. Il est doux, il parle avec douceur, avec patience, il est toujours là, il est toujours fidèle. Mais quand on le connaît, on le reconnaît ailleurs ou on ne le reconnaît pas.
Car je suis doux et humble de cœur.
Oui, il est doux et humble
de cœur. Et moi, mon épouse... Je me souviens quand on venait de se marier et puis je ne sais plus, on a vécu une situation, je ne sais plus laquelle. Elle me pose la question, chérie, je dis oui, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? En fait, être chrétien, c'est se poser tous les jours cette question. Seigneur, je suis face à une situation, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? En fait, c'est vraiment ça. Et pour savoir ce que Jésus aurait fait, il faut savoir l'histoire de Jésus. Comment, face à certaines situations, il a réagi. Ça nous permet d'avoir le cœur et la pensée de Dieu pour se dire, ça, je ne peux pas le faire parce que ça ne ressemble pas à Yeshua. Je ne peux pas faire ça.
C'est ça.
Je ne peux pas le faire parce qu'il ne l'aurait jamais fait. Il ne l'aurait jamais fait. Yeshua n'aurait jamais posé cet acte. Et dès qu'on a, et finalement le canevas de ce que Yeshua, Jésus, n'aurait pas fait ou aurait fait, Après, la deuxième étape, c'est de se dire, Seigneur, donne-moi d'accepter ta volonté. Parce qu'après, on sait qu'on est humain, ça peut être difficile de l'accepter, de la vivre, mais déjà de la connaître, quoi. Et moi, mon épouse, à chaque fois, souvent, elle me ramène cette question. Chérie, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Et parfois, bon, je redoute un peu la question, mais c'est capital.
C'est ça.
Ouais, c'est vraiment capital. Et c'est dans les évangiles qu'on voit ça, cet amour de Dieu.
La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier.
Donc voilà, bien-aimés, c'était ce partage-là sur les quatre évangiles qu'on a souhaité partager avec notre sœur Maman Elena. On espère que vous avez été édifiés. Donc vous avez le numéro qui passe dans les spots. Où vous pouvez nous appeler. C'est vrai que là, on n'a pas le téléphone avec nous, donc on ne peut pas vous prendre en direct, mais vous pouvez appeler au 074 23 17 29. Il y a quelqu'un qui a le téléphone, et si vous avez une question, une interrogation, ou si vous souhaitez discuter avec nous, vous souhaitez prier avec nous, vous souhaitez échanger avec nous, vous êtes malade, vous voulez qu'on prie pour vous, c'est gratuit, hein, il y a pas d'argent. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, donc c'est gratuit. Si vous voulez nous rencontrer, c'est gratuit. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut venir vers vous, c'est aussi gratuit. Donc voilà, vous pouvez nous joindre au 074 23 17 29. 074 23 17 29. Donc vous êtes sur Radio Réveil, la fréquence 100 MHz pour l'édification. Donc on arrive au terme de notre émission. Un mot de fin, peut-être
au revoir à tous. Ouais. Bonne lecture à tous. Bonne découverte du Seigneur Yeshua. Et puis, que le Seigneur vous bénisse richement, profondément, et vous montre sa lumière.
Amen, amen, amen. Mais écoutez, soyez bénis. Et donc, comme je vous ai dit, vous avez le numéro. Et puis, n'hésitez pas à appeler si vous souhaitez échanger avec nous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et shalom, à très bientôt.
Au revoir.